Europe 1, 11h30, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Julia.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Bienvenue dans Bien fait pour vous, votre magazine bien-être dédié au mieux vivre et à votre santé également. Nous sommes avec vous jusqu'à midi et demi. Alors aujourd'hui Julia, par quoi on va commencer ?
Eh bien comme tous les jours, on va commencer cette émission en se posant une question de notre vie quotidienne. Celle du jour, la voici. Que savez-vous vraiment des bonnes manières ? Êtes-vous si bien élevé que cela en réalité ? Bon, je sais, ça fait deux questions, mais bon, en gros, vous avez compris l'idée du jour. On va revoir aujourd'hui les basiques. Comment bien se comporter à table? Que peut-on dire ou non au téléphone? Quelles sont d'ailleurs les erreurs de langage que nous commettons le plus souvent? On va tout reprendre et notre coach pour cela, ce sera Jérémy Combe. Il est spécialiste du savoir-vivre à la française, notamment auprès des candidates au concours Miss France. On sera donc ce matin entre de bonnes mains.
Et puis Julia, à 11h35, dans notre dossier santé-bien-être, on va parler des techniques de rajeunissement du visage. Désormais, le gros lifting pour faire disparaître les rides et retendre la peau, ce n'est plus automatique. On peut proposer une prise en charge moins invasive d'une part, mais surtout plus personnalisée. Grâce à des injections, des soins en profondeur, il n'est plus forcément nécessaire de passer au bloc pour rajeunir de quelques années. On fera le point avec notre invité, le docteur Olivier Claude, chirurgien plasticien à Paris.
Et puis Mélanie, à midi, dans notre séquence tendance, il y aura d'abord la chronique de Sophie Menu. Elle va nous mettre dans l'assiette aujourd'hui un aliment très à la mode, la poutargue. Ce sont des œufs de poisson, de mulet plus précisément, salés et séchés. Elle nous dira comment la déguster pour profiter de toutes ces saveurs. Ensuite, ce sera au tour de Cécile Coumeau de nous présenter sa tendance. Et moi, j'adore son idée du jour. Elle nous propose aujourd'hui de devenir châtelain ou châtelaine. On peut désormais acheter un château à plusieurs. Un petit caprice de princesse qui protège en même temps le patrimoine.
C'est pas mal. On va voir ça. On va y réfléchir, nous, Julia. Hein.
Ah oui.
Et Julia, on finira cette partie tendance avec les secrets beauté de notre expert du sujet, Benjamin Lévesque, avec lui ce midi. Coup de projecteur sur les cosmétiques des sportifs. Et oui, c'est pas parce qu'on sue, qu'on se muscle, qu'on doit se laisser aller du côté esthétique.
C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1 dans votre magazine Bien-être, Mieux Vivre. Ici, vous le savez, on tente de vous faciliter la vie dans tous ses aspects. Et ce matin, on va s'intéresser à cette question. Que savez-vous vraiment des bonnes manières ?
Et oui, Julia, êtes-vous certaine d'ailleurs d'être si bien élevée que cela ? Avez-vous tous les codes en tête du savoir-vivre à la française ? Oui, mais vous, je pense que vous n'êtes pas si mal, franchement. Ah. On verra ça tout à l'heure. Mais je vous préviens, on va vraiment remettre au goût du jour ce matin certaines règles, peut-être un peu désuètes, mais ça ne fait jamais de mal de mettre la barre un peu haute, de viser la perfection pour se comporter au mieux en société. On va voir tout ça dans le détail avec notre invité dans très peu de temps. Mais tout de suite, c'est Clément Lanoux qui a été interrogé les gens pour nous dans la rue sur la bienséance, les bonnes manières. Bonjour Clément.
Bonjour tout le monde. Effectivement, les bonnes manières, ça s'apprend dès le plus jeune âge ou pas. Du coup, je suis allé voir les enfants et je leur ai dit, est-ce que vous pratiquez les bonnes manières? Et qu'entend-on par bonnes manières déjà?
On ne met pas les doigts dans le nez et on ne mange pas ses crottes de nez.
C'est de dire bonjour quand on voit quelqu'un, c'est la base.
Il ne faut pas mettre les coudes sur la table quand on mange.
Pour les polis, il faut dire s'il te plaît et merci.
Oh, s'il te plaît et merci. Voilà. Et même si dans doigt d'honneur, il y a le mot honneur, c'est pas bien les enfants. Non, j'ai aussi trouvé sept enfants. Alors je ne sais pas si c'est des bonnes manières ou de la radinerie.
Les bonnes manières à la maison, c'est de pas dire de gros mots ou autrement on doit mettre une pièce dans la tirelire et moi je veux garder mes sous.
C'est la technique des parents pour récupérer un petit peu parce qu'un enfant, on sait, ça coûte très cher. Alors on va continuer avec les bonnes manières. Je me suis tourné cette fois-ci vers les parents. C'est quoi les bonnes manières ?
Ça va déjà commencer par les règles de politesse en fait. Bonjour, merci, au revoir. Pour moi, c'est la base. Et ensuite, les bonnes manières, ça va être aussi savoir bien se tenir en présence de monde, tout simplement.
C'est hyper important. D'ailleurs, je trouve très surprenant aujourd'hui que lorsque un enfant est poli, vous savez, on vous dit souvent « Oh, mais votre enfant, il est poli !» Et les gens sont étonnés que les enfants soient polis et disent bonjour. Je trouve ça un peu surprenant. Ben oui, c'est normal.
C'est des choses simples qu'on apprend, donc comme faire un sourire ou juste bien se tenir en public.
On aura plus de détails, je l'espère, tout à l'heure. Et puis, est-ce que ça s'apprend ou est-ce que c'est une éducation très jeune? Est-ce que, à mon âge, je peux encore apprendre des bonnes manières?
Oui, j'espère.
Ou est-ce que tout petit, on a été élevé avec des bonnes manières? Peut-être parfois même un peu trop.
Quand j'étais jeune, ma grand-mère m'avait même obligée à apprendre le guide du savoir-vivre par cœur pour ma communion. Wow. Soit je réussissais son épreuve et je recevais 500 francs, ce qui était quand même énorme, ou alors j'échouais et je recevais un missel.
Un missel, pas un demi-sel, pas le beurre. Et là, vous dites, il y en a beaucoup qui se sont dit un quoi ?
Un missel, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est le petit livre qu'on te donnait dans lequel il y avait les chants et les prières pour la messe.
Donc voilà.
Je pense qu'elle préférait 500 francs.
Ça ou 500 francs quand on est jeune.
Bah oui, en plus on peut s'acheter plein de missels avec 500 francs. Voilà.
Et puis avant de parler des bonnes manières, je continue quand même avec les mauvaises manières. Ah oui. Imaginez un premier rendez-vous, vous êtes en tête à tête. Quelle est la pire mauvaise manière selon cette jeune femme?
Je pense que c'est manger la bouche ouverte. Je trouve que c'est vraiment d'une impolitesse pas possible. Et faire des bruits de bouche, mastiquer sa viande sans fermer la bouche, je trouve ça vraiment horrible. Même si c'est Brad Pitt, même si c'est quelqu'un de super beau, je me barre. Hein. C'est pas possible.
Désolé,
non,
Brad Pitt.
C'est pas vrai.
Si c'est Brad Pitt,
ça va.
Un tout petit peu la bouche, éventuellement.
Ah, il peut manger les pieds sur la table. Je crois que ça dérange personne.
C'est son style. Merci beaucoup, Clément Lanoux.
Avec plaisir.
Pour ce reportage très chouette qui nous met déjà dans l'ambiance de notre thème de ce matin. On va donc continuer la bonne éducation avec notre invité. Bonjour, Jérémy Combe.
Bonjour.
Vous êtes, je le rappelle, spécialiste du savoir-vivre à la française, coach des Miss France et l'auteur du livre « Oser les bonnes manières » aux éditions Michel Lafon. Alors, à celles et ceux qui disent que ces codes de bonne manière sont désuets, vous répondez que pour garder ses amis le plus longtemps possible, il faut oser les bonnes manières. C'est bien ça ?
Oui, parce que moi, je pars du principe que les codes sont faits pour qu'on vive ensemble. On a tous des origines différentes, une éducation différente. Vous le disiez tout à l'heure dans votre micro-trottoir.
Oui.
Est-ce que ça s'apprend ou est-ce que c'est inné ? C'est comme tout. Si on vous apprend l'histoire de France depuis votre plus jeune âge d'une façon ludique, vous allez la tenir plus facilement. Bah, c'est pareil pour les bonnes manières. Et en même temps, on peut, quand on sait ce qu'il faut faire, s'autoriser à ne pas le faire. Parce que si vous êtes pris en flag, vous pourrez dire, attendez, deux minutes, hein, tout doux bijou, je vais vous expliquer comment ça se passe.
Vous pouvez dire, je savais ce qu'il fallait faire,
exactement.
Je me suis abstenu, mais je sais exactement ce qu'il faut
exactement,
faire.
Exactement, parce que aussi, les bonnes manières et la bonne éducation, c'est savoir être comme il faut avec les personnes avec lesquelles vous êtes. Il n'y a rien de pire que le type qui veut absolument faire comprendre à quelqu'un ou à un déjeuner ou à un dîner qu'il est pas du même milieu que lui, il a la chance de ça. Et ça, pour moi, ce sont vraiment des très mauvaises manières.
C'est vulgaire, effectivement.
Bah, c'est vulgaire et surtout, les bonnes manières ou les codes, on les appelle comme on veut, ça a été créé pour mettre les autres dans une situation de bien-être.
C'est juste ça. Voilà. Alors Jérémy, c'est quoi l'état des lieux selon vous quand vous observez les gens en société en France, au restaurant, vous êtes outré? Enfin, qu'est-ce que vous pensez là, en 2022, de nos bonnes manières?
Alors, assez bizarrement, le premier confinement, là, vous savez, nous a ramené sur des valeurs beaucoup plus françaises pour les Français, allemandes pour les Allemands, parce qu'on a vécu entre nous, dans nos familles, on ne pouvait plus voyager. Et il y a eu un retour à plein de choses. Donc, on a beaucoup cuisiné, on a beaucoup fait de sport. Et j'ai vu, moi, les questions que j'avais et de personnes connues, par moi, que je ne connaissais pas, qui m'ont posé beaucoup de questions. Il y a un constat, et vous le disiez aussi dans le magnéto, les parents considèrent que si on dit bonjour, ça veut dire qu'on est bien élevé. Idéalement, c'est quand même bonjour monsieur.
Ben oui.
Bonjour madame. Mais on est en 2022, donc on peut jouer toujours pareil avec ça. J'ai quand même vraiment le sentiment que les parents sont beaucoup plus attentifs à l'éducation en société, on va dire. Mais la société, ça peut être à l'école, chez sa nourrice, avec sa babysitter, de règles importantes.
Ça on a peut-être moins ça de bon, alors, le Covid.
Moi, je trouve.
Ouais. On a peut-être compris que l'intelligence sociale était aussi importante que l'intelligence tout court.
Mais vous savez, alors moi, je pense, ça c'est vraiment le credo pour moi, c'est que l'intelligence sociale, c'est le plus important. Mais il y a aussi une autre chose, c'est que chez des personnes qui se pensent être alors bien éduquées ou bien élevées, selon le mot qu'on emploie, je vous promets, regardez à partir d'aujourd'hui autour de vous, qui ne lèche pas son couteau. Et ce n'est pas forcément la personne qu'on attendrait.
Ah bon ?
Moi, je suis hyper surpris.
Julia, vous léchez pas votre couteau, non ?
Je suis allé à un dîner alors, où je me suis dit, mais comment c'est possible que lui
lèche son couteau.
Et j'allais pas lui dire.
Mais non, parce que ça aurait été impoli de lui faire remarquer, effectivement. Mais c'est dingue, ça. C'est la dernière chose qui vous a choqué.
Ouais, le couteau, je vous promets, c'est ce qui me choque le plus. Parce que ça, vous voyez, lécher un couteau, je vais pas le dire parce que c'est presque humiliant. En revanche, une braguette ouverte, ça faut le dire.
Bah oui, et puis c'est un oubli.
Ça, c'est sympa. Et puis c'est le petit truc qui fait qu'en rentrant chez toi le soir, tu dis, je suis pas passé pour un dingue.
Et la crotte de nez, vous le dites aussi ?
Bah, il faut faire un petit. Vous faites le petit geste. Si vous touchez votre propre narine, celui en face se touche la narine.
Ah, génial. C'est très bien vu. Jérémy Combe, vous restez avec nous. On va poursuivre cet entretien dans quelques minutes et revoir un petit peu nos bonnes manières ce matin. Savez-vous, par exemple, qu'au téléphone ou quand on laisse un message sur un répondeur, il y a des choses qui se font et d'autres pas ? Au restaurant aussi, quelles sont les règles pour éviter les moments gênants quand l'addition arrive? On va vous donner quelques clés, quelques conseils sur Europe 1 pour vous débrouiller au mieux en société, comme une Miss France, quoi.
11h30 sur Europe 1,
Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour dans Bien fait pour vous, votre émission Feel Good, Mieux Vivre. Ce matin, on décortique nos habitudes, nos bonnes manières et les entorses les plus fréquentes aux règles de bienséance que nous pratiquons au quotidien. On fait ce boulot à la perfection ce matin grâce à notre invité. C'est vous, Jérémy Combe. Vous êtes spécialiste du savoir-vivre à la française, coach des Miss France et l'auteur du livre Oser les bonnes manières aux éditions Michel Lafon. Alors Jérémy, on passe de nos jours beaucoup de temps au téléphone. Et même si on n'appelle pas à chaque fois le président de la République, il y a des bonnes choses à savoir. Peut-être vous, mais en tout cas, ce n'est pas notre cas. Il y a un bon usage à avoir par téléphone, sur un répondeur. Expliquez-nous quelques grandes règles, on va dire.
Vous savez, je crois qu'on l'a tous vécu. Vous appelez quelqu'un et la personne vous dit « J'espère que je ne te dérange pas. » Ah oui. Bah, déjà, cette phrase, il ne faut pas la donner parce que si je décroche, c'est que vous ne me dérangez pas globalement.
Exactement, c'est
ou alors,
c'est
si jamais vous me dérangez, je vais vous dire « Je te rappelle dans 5 minutes, je suis en réunion. » Mais j'avais parce que parfois, il y a des personnes qui vous appellent plusieurs fois. Ça m'arrive aujourd'hui même, on m'a appelé depuis hier la même personne et j'ai jamais décroché parce que je pouvais pas. Et je me dis, j'aurais dû le dernier coup lui dire, je te rappelle dès que je peux.
Bien sûr.
Donc il y a cette phrase-là qui sert à rien.
Ouais.
Bah si, parce que si tu me déranges, bah voilà.
Je réponds pas.
Tu réponds pas. Il y a aussi les répondeurs de téléphone. Alors il y a eu toute une période dans les années 90-2000.
On faisait des blagues.
On faisait des blagues.
L'enfer.
C'était l'enfer. Et surtout quand vous laissez un message sur votre répondeur, faites un message court. Parce que si celui qui appelle, c'est déjà 30 secondes avant de pouvoir dire un mot, ça sert à rien.
C'est-à-dire que si on est vraiment bien éduqué, il faudrait dire bonjour Julia Vignali, vous pouvez me joindre au 06 machin machin. Et comme ça déjà, si la personne doit me rappeler, elle n'a pas à réécouter tout mon message.
Exactement.
On commence par ça.
Et il faut toujours répéter deux fois quand vous laissez un message. Par exemple, vous répétez aussi deux fois votre numéro de téléphone. Parce que souvent... on est obligé de tous taper pour réécouter le numéro.
Bien sûr.
Et la personne vous a laissé son curriculum vitae et a laissé son numéro juste à la fin.
C'est vrai.
Donc, et on peut pas avancer les messages, enfin sur les téléphones, sur le mien toujours. On peut
sur
pas
certains,
avancer.
On oui, peut on le peut, faire, mais
globalement, le commun des mortels, on peut pas avancer.
Alors autre point, le gentleman que vous êtes n'aime pas du tout les chewing-gums. Pourquoi?
Alors j'ai une anecdote très très drôle. Les chewing-gums, bon, déjà parce que ça fait des bruits de bouche, on l'a entendu aussi dans le micro-trottoir, merci. Souvent les gens mâchent trop fort, ça, c'est pas très joli.
Il y a des gens accros au bruit de bouche, vous savez, on a fait une émission sur l'ASMR qu'on peut réécouter évidemment sur Europe1.fr. Il y a des gens qui sont friands de ces choses-là. C'est très à la mode sur Internet. Je vous ferai passer quelques vidéos.
Ah ben je veux bien, mais volontiers. Et du coup, le chewing-gum, en plus il y a un moment, qu'est-ce qu'on en fait de son chewing-gum?
On le jette.
On le jette, mais.
Là,
j'en avais un aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Et là, j'étais invité sur un plateau de télé l'année dernière, et c'était très drôle parce qu'on a parlé du chewing-gum, et la chroniqueuse avait, mais je ne vous mens pas, 40 chewing-gums de coller sous la table.
C'est dégoûtant quand on passe
donc
la main.
C'était
dessous.
Drôle parce qu'en fin de compte, elle avait pour habitude d'arriver, hop, de les coller parce que pour l'émission.
Ah, mais c'était les siens en plus.
C'était les siens. Mais donc, surtout un chewing-gum, si jamais vous avez la chance d'avoir un morceau de papier, gardez-le, on s'en débarrasse. D'une façon un peu élégante.
Et si possible, pas devant son interlocuteur.
Exactement.
Qui nous voit sortir
et on ne fait pas une bulle et on ne tire pas sur son chewing-gum.
Jamais. Alors, on a beaucoup parlé dans une précédente émission, l'année dernière. D'ailleurs, elle est disponible en podcast sur Europe1.fr. On avait fait vraiment une spéciale avec vous sur l'art de la table, et la façon de se tenir à table. Il y a juste une chose dont on n'avait pas parlé, on va revenir dessus. C'est le moment de l'addition.
La douloureuse.
Quand on est au restaurant, voilà. Une personne veut partager la note. Mais bon, le problème, imaginons, moi, j'ai pris qu'une salade. Lui, s'est fait l'entrée plat dessert, voire la mise en bouche, etc. C'est pas très équitable de faire qui commence débrouiller dans cette situation-là.
Il n'y a rien de mieux pour illustrer ce cas-là que l'addition de Muriel Robin.
Exactement, l'enfer.
C'est un enfer. Alors, il faut que les choses soient très claires depuis le départ. Je vous invite, et surtout, c'est moi qui vous invite, donc on l'annonce. Mm-hmm. Alors, c'est toujours un peu délicat parce que quand on sait qu'on est invité, si jamais on voulait prendre le plat à 40 et qu'il y en a à 28,
prendre,
si on est à peu près élevé, on va prendre celui à 28.
On est d'accord que si on nous dit « je t'invite »,
on prend celui à 40.
Non, on évite le truc marqué supplément plus 10 euros.
Bah exactement.
Merci.
Même si c'est ce dont on a envie, c'est comme le dessert qui se fait, vous savez, à la minute. Ouais. Si jamais on ne sait pas si l'autre va prendre un dessert, on ne dit pas « je prendrai aussi le soufflé au chocolat ». Voilà. Et puis l'addition, moi je pense qu'aujourd'hui c'est très clair, si jamais l'homme, alors on va encore dire que je suis misogyne, etc.
Pas du tout, on sait que ce n'est pas vrai.
Mais l'homme invite la femme si jamais on est deux. Et il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est de voir justement celui ou celle qui, au moment où l'addition varie, où il faudrait que quelqu'un s'intéresse de l'addition, a tout à coup besoin d'aller se laver les mains, mais d'une façon très pressante.
J'ai vécu ça, mais tellement de fois, toujours la même personne qui se lavait les mains, qui partait aux toilettes.
Pouvez-nous la décrire un petit peu
cette personne, mais c'était horrible. Alors après, je ne prenais que des cafés avec lui parce que ça m'énervait, cette radinerie.
Moi, je vous promets, j'ai des amis avec lesquels je ne déjeune pas ou je dîne pas.
Merci.
Pour cette raison-là.
Ah oui, carrément.
Parce que c'est même pas une question de radinerie. Là, c'est une question, au bout d'un moment, si on est amis, on peut partagé. C'est une fois c'est toi, voilà, une fois c'est
ça,
moi.
Bien sûr.
Si tu sais que ton
j'ai
copain...
de la chance, j'ai pas d'amis comme ça. Ah, hein.
Mais bon, c'est pas un ami du coup.
Non, c'est pas un ami. En plus, je trouve que suivant la profession que tu as, la vie que tu as, si tu sais que tes amis traversent une période un peu plus délicate, naturellement, toi, ça ne changera pas ta fin de mois.
Et qu'est-ce que vous pensez des gens qui vont régler l'addition avant même qu'elle n'arrive à table?
Ah bah ça, c'est l'élégance.
Moi, ça m'arrive souvent.
Oui. Moi aussi, je fais ça. Ça, c'est vraiment très élégant. Et justement, si jamais vous sentez que le petit... Parce qu'il y a aussi des personnes, ça m'est arrivé hier, donc je fais du concret. J'ai déjeuné avec une amie qui, elle savait que j'allais l'inviter parce que c'était comme ça. Elle est allée justement, j'ai commandé des cafés, elle est allée se laver les mains. C'est aussi une façon élégante de laisser l'autre payer.
Bien sûr.
Vous voyez, pour que la situation ne
soit
pas gênante
pour personne. Ah là, vraiment, excusez-moi, on est vraiment chez les très chics.
Je vais vous inviter à déjeuner toutes les deux.
C'est super, c'est-à-dire que vous préservez même vos invités de cette situation gênante où vous sortez votre carte bleue.
Oui.
J'adore.
Mais oui, chic. Parce qu'en plus, vous savez, c'est gênant. Et puis il y a toujours le mec un peu relou qui dit ah, mais t'as une carte bleue de cette couleur-là, machin.
Oui. Ah oui.
C'est-à-dire qu'il y a un moment, cette addition devient un truc dont on n'a pas envie de parler. Quoi.
Exactement. Ouais.
Et il y a quelque chose de très chic, je dis aux auditeurs, si jamais vous déjeunez avec votre mère, votre femme, votre fille, c'est toujours l'homme qui doit commander pour la femme. Mmh. Par exemple, vous allez me dire, tiens, je veux prendre un potage et puis du poulet. Eh bien, c'est moi qui vais dire, madame va prendre un potage. Et la personne avec laquelle j'étais hier m'a fait la réflexion, parce que je n'ai pas osé le faire en disant, elle va se dire, il est complètement ringue. Et pourtant, c'est une femme moderne. Hein. Elle m'a dit, ah, mais tu vois, parce qu'on parlait de bonne manière, évidemment. Elle me dit, tu vois, moi, j'aime bien quand on commande pour moi.
Oh, c'est vrai, j'aimerais bien qu'on le fasse pour moi.
Ah, moi aussi,
je fais ça
aussi.
À mon mari, tiens.
Et généralement, l'homme vous reverse de l'eau ou du vin. C'est pas à vous de soulever cette bouteille.
Une femme,
lourde,
une femme peut se servir de l'eau, mais une femme ne se sert pas de vin, parce que justement, ce serait un peu. Il faut pas passer pour la sous-Hélène du déjeuner ou du dîner. Moi, je vais bien passer pour le JR, ça ne me pose pas de problème, mais pas la femme.
Bon, on va passer à autre chose, Jérémy. Quand on a des employés chez soi, par exemple, une femme ou un homme de ménage, une babysitter, ça ne dispense pas, vous insistez dans votre bouquin, de la courtoisie, de règles qui sont, par exemple, de ne pas les tutoyer.
Oui, parce que je ne sais pas pourquoi on tutoierait cette personne qui, socialement, représente quelque chose de moins bien que soi. Parce que quand on ne connaît pas quelqu'un, le tutoiement, il y a quand même, on l'a vu, je ne vais pas vous refaire l'histoire, on tutoie parce qu'on est au-dessus du lot. Mmh. Ce n'est pas juste pour de la convivialité. Donc je trouve que c'est une forme de respect. Si cette personne travaille chez vous depuis 10 ans, assez naturellement, le tutoiement peut arriver et peut-être que vous pouvez aussi vous faire tutoyer, mais ça dépend comment ça se passe. Et c'est surtout, moi je le dis encore à la mienne, etc., c'est que pendant que ces personnes font du ménage, du repassage, elles peuvent avoir soif, elles ont le droit de boire, c'est pas un crime de lèse-majesté. Elles peuvent se faire un café, ça va pas changer le nôtre. Enfin, vous voyez, je trouve que la confiance, elle partage votre vie quand même. Pourquoi elle aurait le droit de laver vos linges sales et de faire votre ménage, et pourquoi elle aurait pas le droit d'être quelqu'un de bien en place chez vous?
Et quand on a la même babysitter, par exemple, depuis, je sais pas, 10 ans, admettons.
Parlez-moi
et qu'elle
de votre
vécu. Oui, c'est vrai, je le disais pas, mais et qu'elle nous le demande, mais on va se tutoyer maintenant, là, on peut le faire, si elle nous propose.
C'est comme on se disait au début de notre échange, il y a des choses qui sont naturellement. Voilà. En revanche, il y a aussi des personnes qui vous disent de les tutoyer. Et quand vous avez commencé à les vouvoyer,
c'est
dans
difficile.
La vie, c'est dur parfois de
bien
passer
sûr.
Au tutoiement. Mais je trouve qu'avec le personnel de maison, de tout ce qu'on veut, je trouve que c'est irrespectueux que de tutoyer d'emblée. Parce qu'il n'y a pas de raison.
Exactement. Ouais, alors, quelles sont les grandes erreurs de français, de langage les plus courantes qui vous agacent le plus? On doit en faire mille à la seconde.
Non, je
qu'on en fait plein dans cette émission.
Je vous promets, c'est plusieurs fois qu'on se rencontre.
Je dis souvent du coup, et ça c'est pénible.
Vous l'avez dit tout à l'heure.
Du coup, mais ça c'est un tic de langage.
Ouais.
C'est pas une faute de français.
D'accord.
Justement, on ne fait pas une faute, on commet une faute. On ne mange pas. On déjeune ou on dîne. On mange une pomme.
Quand je dis on va manger à la cantine, c'est pas correct.
Ah non, on va déjeuner ou on va manger du poulet.
Ah ouais. On va manger des frites plutôt.
On dit pas bon appétit.
Dit quoi, pas bon appétit, alors on dit quoi?
Bah on dit faut trouver une petite pirouette, parce que maintenant dans les restaurants ils disent bonne dégustation. Je trouve que
c'est chic. Hein.
Donc il n'y a pas vraiment de mots.
Mais
ça a l'air si
quoi,
bon. Allons-y. Enfin oui, il faut faire une petite pirouette comme ça. On ne souhaite quelqu'un qui éternue, c'est pas à vous de lui dire à tes souhaits.
Ah oui.
C'est la personne qui éternue.
Qui
s'excuse, et vous lui dites je t'en prie.
Parce qu'autrement, on fait remarquer à la personne qu'il vient de nous déranger, c'est bien ça.
De nous déranger et qu'il est malade surtout. C'est attirer l'attention sur la maladie de l'autre.
Et en ce moment, il y en a quelques-uns, malheureusement.
Ah, je peux vous en parler, oui.
C'est ça. Le mois de janvier, c'est la période des vœux. Moi, j'avoue.
Et de la frangipane.
C'est une période qui me fatigue. Moi, bonne année, jusqu'à la fin du mois de janvier. Je trouve ça très long, mais qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas? Moi, j'avoue que j'ai tendance à faire de temps en temps, notamment au 2 janvier, un SMS collectif à tout le monde.
Vous faites ça, vous?
Ah, vous saviez pas ce que je vous ai envoyé? J'ai juste changé le prénom et puis c'était le même pour Benjamin, pour tout le monde.
Moi, je ne l'ai pas reçu, je ne veux pas en parler, puisqu'on en parle.
je viens de faire une autre erreur. Qu'est-ce qui se fait alors pour souhaiter les vœux et de quelle façon c'est élégant?
Ça, c'est pareil. C'est un peu éducatif. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'on recevoir une. Il y a tellement peu de moments maintenant où on prend son stylo, une jolie carte. On l'avait déjà, je crois, dit ensemble, mais les mariages, les fiançailles, les enterrements, c'est quand même des moments forts de la vie. Ça prend un peu de temps, mais c'est quand même toujours très agréable d'avoir une trace écrite. En revanche, on est en 2022. À vos amis, on peut envoyer un SMS. Enfin, c'est aussi par rapport à la personne. Vous qui écrivez souvent président de la République, vaut mieux lui envoyer une lettre de château plutôt qu'un SMS, bien sauf sûr. Si jamais vous allez au McDo avec lui.
Je serai peut-être bientôt châtelaine avec la chronique de Cécile Coumont. Hein,
je vais écouter cette chronique,
instant.
Elle m'intéresse.
Ouais, oui, c'est sûr.
Alors, Jérémy Combe, vous ne bougez pas. On va continuer à parler de bonne manière avec vous du fameux savoir-vivre à la française qui se perd malheureusement. Mais on tente d'arranger ça ce matin dans Bienfait pour vous. D'ailleurs, je le rappelle, hein, vous pouvez nous laisser vos questions sur le savoir-vivre, notre thème du jour, au 3921, le répondeur de ou encore sur nos réseaux sociaux, par exemple sur le compte Instagram de l'émission. Alors à tout de suite.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On s'intéresse ce matin, enfin, on fait plutôt un petit rappel des grandes règles de savoir-vivre à la française avec notre invité, toujours en studio avec nous, c'est Jérémy Combe, spécialiste du savoir-vivre à la française et l'auteur du livre « Oser les bonnes manières » aux éditions Michel Lafon. Alors, on va aborder une autre situation de la vie à présent. Si un homme se balade avec une femme, il y a tout un protocole, là encore, qu'il faudrait connaître, sur le positionnement de l'homme sur le trottoir, dans les escaliers ou quand on entre dans un restaurant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça?
Avec joie. Alors, il y a trois situations, effectivement. Le fameux escalier, l'ai-je bien descendu ou l'ai-je bien monté? Traditionnellement, on laissait toujours la femme passer derrière vous parce qu'on ne regardait pas sous les jupes.
Oui.
Sauf que les mentalités ont évolué, etc. Les femmes portent aussi des pantalons, et heureusement. Donc, l'homme est toujours derrière la femme quand une femme monte l'escalier parce que si elle venait à tomber, nous serions là pour la réceptionner. Pareil, quand vous descendez un escalier, l'homme passe avant.
En cas de danger.
Voilà, 14 cm de stilito, vous pouvez tomber. Voyez. Donc c'est pour attraper. Le restaurant, c'est très intéressant. Le restaurant est le seul lieu public où l'homme entre en premier.
Ah, pourquoi?
Alors, pareil, le temps a évolué. Autrefois, on allait dans des saloons, c'était mal fréquenté, il y avait de la fumée. Ensuite, quand les mœurs sont changées, vous savez, quand quelqu'un rentre dans un restaurant... tous les regards se posent sur la personne qui arrive. Donc c'était pour éviter que les regards se posent sur les femmes.
Les jaloux, là, pour protéger leur...
Des gènes. Et aujourd'hui, moi, je conseille à tous mes copains d'entrer, parce que si jamais il y avait une ex ou une aventure, ça permet de changer de resto.
De changer de resto. Ah, comme quoi, les règles changent.
Et les trottoirs, l'homme est toujours du côté du caniveau.
Ben oui.
Parce que si jamais un larcin venait à passer et vous pique votre sac, ou si jamais il y a de l'eau dans le caniveau. Vous savez, tout ça, c'est autrefois. Les caniveaux, c'était vraiment la poubelle de rue.
Oui.
C'était pour éviter que vous soyez éclaboussé.
Vous me faites rire, Jérémy Combe. Vous dites encore le mot larcin. Ça vous rend très sympathique.
Bon, Jérémy, si jamais on fait du covoiturage, ça, c'est moderne. Ah. Hein, on n'en faisait pas autant des calèches, quoique. C'est de plus en plus courant. Vous préconisez là aussi de respecter quelques règles, lesquelles selon vous?
C'est-à-dire que c'est quand même un moment assez intime. On arrive dans la voiture, c'est le prolongement de l'habitation quand même. Donc c'est toujours pareil, on en parlait tout à l'heure, on n'est pas tout de suite super ami avec le type ou la jeune fille qui va vous conduire pendant 300 km. En revanche, on n'est pas non plus avec ses écouteurs ou au téléphone pendant la même durée.
C'est-à-dire est un peu chez lui quand même.
On est un peu chez lui. Ouais. On est là. Si on fait ça, il y a sans doute une raison économique, parce que souvent, ce n'est pas pour rencontrer des amis, quoique. Mais on essaie de s'adapter à la personne qui vous reçoit dans sa voiture. Si elle vous parle... allez-y, répondez
si
et parlez. Si jamais elle vous parle pas, vous adoptez un peu son comportement.
Le minimum de politesse au départ. Bonjour monsieur, bonjour madame.
Exactement.
Et après on s'adapte.
On s'adapte, exactement. Une question pour vous, Jérémy Michel, près de Bordeaux sur Facebook. Il dit, quand je quitte une chambre d'hôtel, je sais jamais quoi faire, j'ai tendance à rouler la literie et la mettre par terre. Ouh, est-ce que c'est la bonne chose à faire?
Alors c'est qu'il y a peut-être quelque chose à cacher.
Oui, c'est bizarre, un corps ou...
Avec le cadavre à l'intérieur.
Un corps ou une nuit très agitée. Mais non, moi je conseille toujours, et omis parce qu'on en parlait aussi tout à l'heure, c'est que quand même, si vous devez revenir dans cet hôtel, dans le milieu hôtelier, on se souvient très très bien des personnes qui viennent séjourner. Hein. Et donc on laisse sa chambre, alors on ne va pas remettre la salle de bain nickel, mais on laisse quand même la chambre dans un état On en parlait du personnel de maison, c'est pas parce que quelqu'un vient faire la chambre.
On est d'accord, c'est ça.
On tire les draps, on peut regrouper quand même le linge dans une baignoire. Enfin, on essaie de faciliter le plus possible le travail de la femme de chambre. Mmh. Elle est aussi respectable que celui qui a dormi dans le lit, je trouve.
Donc, c'est pas mal rouler la literie et la mettre par terre. Enfin, je veux dire,
oui, on n'est pas obligé de défaire le lit quand même. Voilà. C'est-à-dire que si on va passer une nuit ou un week-end chez des amis, là, on enlève ces draps.
Bien sûr.
Et on les plie. Paf, paf, on les laisse sur le lit. Si on est très proche, on peut les amener dans le bac à linge sale si on sait où on est. Mais on ne laisse pas normalement des intimes ou des amis défaire vos propres lits.
Alors la Saint-Valentin approche.
Ah, vous êtes romantique. Hein. Vous pouvez pas du tout, vous empêcher.
Je déteste tout ça. Mais est-ce qu'un homme doit offrir des fleurs à sa douce? Est-ce que ça se fait toujours ça? Et si oui, lesquelles choisir pour signifier son amour dans les règles de l'art?
Alors, est-ce qu'un homme doit t'offrir des fleurs? J'ai envie de dire, peut-être pas, mais la femme veut absolument qu'on lui offre des fleurs.
Donc
non, mais c'est très drôle cette fête, c'est que tout le monde dit, on l'aime pas, on l'aime moyen, mais si jamais l'homme ne bouge pas, enfin l'homme ou la personne avec laquelle vous partagez votre vie, l'être aimé, ne fait rien, ça peut être une petite guerre des tranchées. Alors c'est vrai que les fleurs ont un langage.
Voilà.
Si jamais vous êtes terriblement amoureux, vous offrirez des roses. Avec des épines, ça veut dire que alors là, c'est de l'amour ardent, flamboyant.
C'est la passion.
C'est la passion. Si jamais...
On s'aime bien, mais sans plus, comment on fait?
Si jamais ça se ternit un peu, vous voyez, c'est une petite... Oui. Vous pouvez faire, je vous conseille, faites un bouquet multicolore et vous glissez une rose rouge à l'intérieur. Ah. Ça veut dire qu'il y a encore la flamme chérie.
Ah, c'est joli ça, c'est mignon comme
ça. En revanche, si jamais vous recevez des fleurs Parme, par exemple, c'est plutôt les fleurs qu'on offre pour les fiançailles. Alors, où c'est, il faut qu'on reprenne tout à zéro. On n'offre pas de cactus, parce que alors là, ça veut dire c'est vraiment terminé.
Et les roses blanches?
Moi, je trouve que les roses blanches, c'est magique parce qu'on y met ce qu'on veut derrière.
Mmh. C'est comme une page blanche.
Non, mais c'est vrai. Y a tout à écrire ou alors tout a déjà été effacé, on peut recommencer. Enfin,
C'est pas mal le blanc, alors.
Le blanc, c'est pas mal.
Allez, cette année, ça sera des roses blanches. Alors, merci beaucoup, Jérémy Combe, d'avoir été avec nous ce matin pour nous éclairer sur toutes ces erreurs que l'on commet bien trop souvent en société. Les bonnes règles du savoir-vivre à la française se perdent, malheureusement. Et je vous remercie pour cette petite piqûre de rappel.
À bientôt.
Oui, merci, Jérémy. On va maintenant changer de thématique. On va vous présenter plusieurs nouveautés concernant le rajeunissement du visage. Comment stopper ou ralentir tout du moins ce processus au niveau de notre peau sans passer par la case lifting, hydrafacial, skin booster, micro-needling? On va tout vous expliquer, c'est notre dossier santé-bien-être du jour.
Europe 1, 11h, 12h30. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Pour y voir plus clair sur les dernières techniques qui permettent de garder un visage radieux le plus longtemps possible sans user du bistouri, on va tout de suite donner la parole à notre invité. Bonjour docteur Olivier Claude.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien plastique et esthétique à Paris. On va parler de toutes ces méthodes aujourd'hui non chirurgicales pour rajeunir ou embellir un visage avec vous. Mais pour commencer, expliquez-nous déjà pourquoi on vieillit plus rapidement finalement du visage que du reste du corps.
Alors, pour deux raisons principales. La peau au niveau du visage est plus fine que sur le reste du corps. Et c'est une peau également qui va être un petit peu plus agressée. Elle est plus exposée au soleil, elle est plus exposée à la pollution. Et c'est une peau aussi qui va s'affiner plus rapidement avec une diminution du fonctionnement des fibroblastes, cette cellule clé du derme. Donc on aura moins de fibres de collagène et moins de fibres d'élastine au niveau de la peau.
Alors on produit moins de collagène à partir d'un certain âge, c'est l'un des problèmes, mais le collagène c'est vraiment essentiel?
Oui, c'est la protéine fondamentale de la peau. Cette protéine, elle va assurer la tonicité de notre peau, c'est un peu sa colonne vertébrale. Donc c'est très important de nourrir et stimuler les fibroblastes pour que ces cellules puissent produire mieux ce collagène, un petit peu comme on pourrait faire du cardio-training pour muscler notre cœur avec les années.
Est-ce qu'il y a un âge moyen où ce collagène il commence à être déficient? C'est vers quel âge que ça commence la dégringolade?
En fait, tout apparaît assez vite, mais on s'en rend compte
assez tard,
avec un petit temps de retard, mais à partir de 25-30 ans, le collagène fonctionne un petit peu moins bien. Donc, il faut entretenir avec une bonne alimentation, des bonnes crèmes.
En fait, dès 25 ans, on vieillit quoi, de la peau en tout
Exactement.
Cas.
Exactement.
Ah oui. Alors, vous avez dit cette histoire de collagène en surface de la peau, mais ce qui se dégrade aussi avec le temps, c'est ce qui se passe en profondeur en fait. Hein. Expliquez-nous ce qui vieillit aussi finalement.
Exactement. Avec les années, nous perdons de l'os et de la graisse profonde. Et cette perte d'os et de graisse en profondeur, ça va entraîner une perte de soutien, de support du visage et les tissus vont tomber vers le bas et vers l'avant, au niveau du sillon nasogénien, du pied d'amertume et même créer un petit peu plus tard la région bajou.
Ah, on n'aime pas ça. Ça m'a fait peur le mot.
Elle a eu peur quand vous avez dit
Alors,
bajou.
Justement, pour combler ce vide en profondeur, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Des injections, mais de quoi?
Alors, on va réaliser des injections d'acide hyaluronique, mais en profondeur. Comme le problème se situe en profondeur, il va falloir traiter à ce niveau et non pas en superficie. Si on réalise des injections d'acide hyaluronique trop en superficie, on va alourdir le visage et bloquer les mimiques. Ah. Alors que si on injecte en profondeur, on va restaurer ce soutien, ce support, et on obtiendra un résultat naturel et harmonieux.
Mais ça fait peur parce que, par exemple, si je me décide d'aller faire des injections d'acide hyaluronique, c'est à moi de dire aux praticiens en profondeur et pas en superficie, comme on sait où
et
est-ce
quelle
qu'on
profondeur,
va...
à quel point on va au fond, vous dites.
Comment on sait ce qu'on nous injecte et comment on nous l'injecte ? C'est pas évident, ça ?
Non, c'est pas évident. Et c'est pour ça qu'on fait 10 à 15 ans d'études. C'est pour savoir analyser un visage, mais la première étape, Julia, très importante, ça va être écouter nos patients, savoir quelle est la demande de nos patients. Ensuite, on va analyser le visage et en fonction de ces deux paramètres, on va réaliser un plan de traitement qui sera personnalisé pour chacun de nos patients.
Donc ce qu'il faut à Mélanie, c'est pas ce qu'il me faut à moi.
Non, ah ben non exactement.
Voilà, c'est ça, parce ça que sera vous jamais avez, la même chose.
Même si vous étiez des sœurs jumelles, vous auriez peut-être des souhaits différents, oui. Donc un plan de traitement qui sera différent.
Je reviens sur mon histoire de profondeur qui fait un petit peu peur, comme ça, dit comme ça, mais c'est à quel point profond, je ne me rends pas compte. Parce que quand vous faites du Botox de manière superficielle, c'est à combien de millimètres? Et profond, c'est profond jusqu'à l'os? C'est jusqu'où?
Ça peut être profond jusqu'à l'os et ça ne doit pas vous faire peur. Parce
ça fait mal.
Plus on est en profondeur, moins il y a de sensibilité. Les rameaux sensitifs sont surtout sur la partie la plus superficielle de la peau. Donc plus je suis en profondeur, moins c'est sensible pour nos patients et moins il y a de risque d'ecchymose parce que on a moins de vaisseaux en profondeur. Les petits vaisseaux sont surtout en superficie. Donc en général, les patients sont moins sensibles pendant la séance d'injection et il y a moins de risque de bleu d'ecchymose.
Et vous mettez de la crème anesthésiante ou vous y allez direct?
Presque systématiquement, j'utilise des crèmes anesthésiantes qui sont plus fortes que les crèmes EMLA qu'on trouve dans le commerce, sont des crèmes qui sont réservées aux médecins, qui nous permettent d'avoir un confort pour nos patients.
Ah, pas mal. Alors on va expliquer quelque chose aussi qui est assez nouveau, pour encore plus de précision sur vos injections. Donc vous utilisez ce qu'on appelle les MD codes. Expliquez-nous le plus simplement possible de quoi il s'agit. C'est comme une cartographie du visage, hein, je crois.
Oui, c'est ça. En fait, c'est un outil d'analyse architecturale du visage qui va nous permettre d'analyser et de réaliser un plan de traitement personnalisé. En fait, il faut comprendre que notre activité de chirurgie et de médecine esthétique a une dimension artistique qui fait toute la magie de notre métier et ce qui nous passionne, mais c'est aussi un acte médical comme les autres, donc on doit le faire avec la même rigueur que les autres spécialités. Et donc nous avons par exemple dans d'autres spécialités, les radiologues, lorsqu'ils font une analyse d'un sein au cours d'une échographie mammaire, ils vont parler avec des codes. Ils vont dire par exemple UQS, ACR3, ça veut dire qu'au niveau du sein, on va avoir dans 3 à 4 mois, à l'union des cadrans supérieurs, une image qu'il faut surveiller. Eh bien nous, avant les MD codes, on n'avait pas cet outil de codification. Donc ça nous permet d'analyser, de parler tous le même langage. On peut parler à un confrère qui est à New York, qui est à Sydney, et lui dire exactement quelle séquence de traitement nous avons réalisée. Et ça nous permet d'avoir une séquence personnalisée pour nos patients qui nous permettra d'obtenir les meilleurs résultats.
Mais c'est génial ! Et ça permet de savoir comment un visage va vieillir, c'est ça ? Et où il faut agir exactement ? C'est formidable !
Exactement.
C'est de la médecine sur mesure, donc c'est ça ?
Exactement, c'est ça. En fait, lorsqu'on est face à un visage, on va essayer de repérer, un petit peu comme un architecte face à une maison, quelles sont les zones de faiblesse, quels sont les maillons faibles, et on va essayer d'éviter
Elle me montre son visage, c'est faible partout,
c'est quoi,
Julia.
C'est quoi mon maillon faible?
C'est difficile comme ça.
Vous n'avez pas, Julia.
Oui, oh, c'est ça, secret professionnel.
Il a vraiment de bonnes manières, ce docteur Claude. On n'a pas fini avec vous, on va continuer cette mise au point sur les nouvelles techniques de rajeunissement du visage. Aujourd'hui, il n'est pas toujours nécessaire de passer au bloc opératoire pour revenir en arrière de quelques années ou donner à son visage un petit coup d'éclat, un petit coup de peps. On va vous détailler ses nouvelles méthodes, ses soins, hydrafacial, mésothérapie, skin booster. C'est un vrai coup de jeune qu'on vous propose ce matin sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous. Jusqu'à 12h30, c'est votre émission Bien-être tous les matins. Alors aujourd'hui, on vous fait découvrir ce qui se fait de plus moderne pour entretenir son visage, son teint, pour paraître jeune et dynamique le plus longtemps possible. Et il y a des tas de nouvelles façons de procéder. Le bon vieux lifting serait-il sur le point de disparaître? C'est ce qu'on va voir avec le docteur Olivier Claude, notre invité, chirurgien plastique et esthétique à Paris. Alors docteur, une fois que les fondations du visage, dont on a parlé juste avant, avant ont été consolidées, par exemple avec ces injections d'acide hyaluronique en profondeur. On va voir comment on peut agir peut-être en surface sans passer par le bloc opératoire. Et ça commence, je crois, notamment par un bon nettoyage de visage. Vous conseillez par exemple des nettoyages profonds du type hydrafacial, c'est le nom de la technique. Ça consiste en quoi? Comment on pratique ce type de soin?
Alors oui, effectivement, c'est une étape très importante. Une fois qu'on a réalisé cette restauration du soutien du support en profondeur, hein, c'est la première cause du vieillissement, cette perte de support avec les traitements acide hyaluronique en profondeur, il va falloir s'occuper de la superficie. Une fois qu'on a fait ce travail d'architecte, on va devenir un peu plus architecte d'intérieur. Oui. Et la première étape de cette étape superficielle, ça va être le nettoyage de peau en profondeur, type hydrafacial. Donc on va nettoyer la peau sur sa partie profonde, on va enlever tout le sébum au niveau des pores, la peau va mieux respirer, et on va ensuite, à la fin de la séance, infiltrer un sérum qui va nourrir et stimuler la peau. C'est un sérum qui va contenir de l'acide hyaluronique très fluide, des antioxydants, des vitamines, des facteurs de croissance.
Et ça c'est...
Ouais.
on est très intéressés.
Je pense qu'on a la même question avec Mélanie, c'est ça, il faut le faire avant une injection, ça prépare à l'injection.
Ça va pas préparer.
C'était pas votre question ?
Non, c'était pas la question. Moi, je voulais savoir à quel rythme il faut faire ce genre de soins.
Ça va préparer l'injection, mais ça va préparer les autres soins de la peau. Effectivement, c'est un peu la porte d'entrée pour les autres soins de la peau.
Pour les crèmes de jour qu'on met, ce genre de choses.
Alors oui, effectivement, lorsqu'on utilise ces nettoyages de peau en profondeur, les peaux vont être beaucoup plus réceptives à nos crèmes. Donc les crèmes vont être plus efficaces. Si on se met une très bonne crème sur la peau et qu'on n'a pas fait cette étape, c'est un peu comme si on va à l'opéra avec des boules qui est, on en profite moins.
L'image est pas mal.
C'est un simple nettoyage de peau
non,
ou pas,
non,
je peux pas le faire à la maison.
Non, vous pouvez pas le faire parce qu'il faut une machine très spéciale qui va infiltrer un sérum, qui va ensuite aspirer ce sérum pour nettoyer les pores en profondeur et réaliser un micro-peeling qui n'entraîne pas d'éviction du soleil, mais qui va nettoyer ces pores en profondeur. Et ensuite, on infile ce sérum avec ses actifs particuliers dont je viens de parler.
Mais sur les peaux fines, par exemple, vous le faites quand même parce que ce n'est pas trop abrasif? Vous parlez de peeling.
Alors, très bonne question. Oui, comme tous les soins, il va falloir adapter la puissance de l'aspiration et les sérums qui vont être appliqués à la fin de cette séance.
Là aussi, c'est du soin un peu à la carte. Ça coûte combien en moyenne un hydrafacial, un soin hydrafacial?
Effectivement, ça va dépendre des soins, des protocoles, de l'expertise des équipes, mais c'est à peu près entre 200 et 250 euros par soin.
À quelle fréquence faut faire ça?
Ça va dépendre des peaux également. À peu près une fois par saison, on dit. Mais si on a une peau très séborique, un petit peu plus grasse, il faut parfois le réaliser plus souvent, parfois tous les mois ou tous les deux mois.
Alors, dans les semaines qui suivent l'hydrafacial, vous préconisez de faire une séance de micro-needling. C'est quoi exactement?
Alors, le micro-needling, comme son nom l'indique, ce sont des petites aiguilles. Il y a des dizaines de petites aiguilles qui vont rentrer sous la peau à une profondeur déterminée et une vitesse déterminée. Et ce simple micro-needling, ça va suffire à activer les fibroblastes. Encore une fois, c'est la cellule clé du derme. Donc on va synthétiser plus de fibres de collagène et de fibres d'élastine. Et à la fin de la séance, on va utiliser un sérum qui va pénétrer par les petits orifices créés par ce micro-needling. Et ce sérum, encore une fois, il va utiliser plusieurs actifs, de l'acide hyaluronique très fluide, des vitamines, des antioxydants, des facteurs de croissance.
Vous n'injectez rien avec les petits.
En gros, c'est comme des petites blessures qui permettent à la peau de se régénérer, c'est ça? C'est des micro-blessures de la peau et du coup, elles se renouvellent, hein, c'est ça?
Exactement.
Ah, j'ai bien pas compris. Mal, ça fait pas mal, ça?
Et ça ne fait pas mal.
Et tous les combien et combien ça coûte?
elle prend note pour tout là.
Alors tous les combien, ça va dépendre des protocoles, ça va dépendre des peaux, mais on peut faire 3 cycles espacés d'un mois et après une séance d'entretien tous les 3 à 6 mois.
Et quand est-ce que Julia peut venir? Non, je plaisante. Alors on peut aller travailler après ce genre de séance, parce que vous dites quand même, même si ça fait pas mal, ce sont des micro-aiguilles, etc. Mais je peux aller travailler derrière ou pas?
Alors en général, il n'y a pas d'éviction socio-professionnelle. On peut avoir la peau légèrement rosé pendant 24-48 heures. En général, c'est peu ou pas visible.
Et ça coûte combien? Vous ne m'avez pas répondu.
Ça va dépendre des protocoles, encore une fois. Ça va dépendre des actifs qui sont mis en place. À peu près entre 150 et 300 euros par séance.
Alors, est-ce qu'on peut associer le micro-needling avec de la mésothérapie?
Oui, alors la mésothérapie...
Alors, qu'est-ce que c'est déjà?
Alors, la mésothérapie, là, ce sont des injections un petit peu plus en profondeur, mais dans la partie toujours la plus superficielle de la peau. Et l'objectif, c'est encore une fois de nourrir et stimuler la peau avec ce cocktail d'actifs acide hyaluronique très fluide, c'est-à-dire non réticulé. C'est pas de l'acide hyaluronique qui va faire un volume, mais qui va nourrir la peau associée à des vitamines et des antioxydants.
C'est de l'hydratation puissante.
C'est un peu ça. On peut le résumer comme ça. C'est vraiment s'occuper de la peau en superficie et ça va donner un coup d'éclat, diminuer les petites rides. C'est vraiment une partie très importante de nos soins. C'est un petit peu comme ce travail de décorateur d'intérieur dont
bien
je parlais.
Bien sûr. Et on peut l'associer avec le micro-needling. Ça ne fait pas trop de...
Exactement.
D'injection.
Ça peut être utilisé en association lors de la même séance.
Alors j'ai beaucoup d'amis, de nombreuses copines qui sont accros complètement à des soins qu'on appelle les skin boosters. D'ailleurs tous ces soins, ils sont en anglais. Hein. Skin booster, ça s'écrit comme la peau. Hein. S-K-I-N et booster, B-O-O-S-T-E-R. J'appelle ça pour ceux qui ne sont pas anglais fluide, on va dire. C'est quoi un skin booster? C'est la même chose que tout ce dont on vient de parler ou pas?
C'est comme la mésothérapie?
Alors c'est assez proche. En fait, un skin booster, c'est de l'acide hyaluronique extrêmement fluide, mais réticulé. Réticulé, ça veut dire stabilisé. Ça veut dire que c'est un acide hyaluronique qui est là pour restaurer le moelleux de la peau. Il n'est pas vraiment là pour nourrir la peau, mais pour restaurer le moelleux des tissus. Donc c'est un outil très important, mais l'acide hyaluronique, lorsqu'il est stabilisé, il dure toujours, il reste sous la peau toujours un petit peu plus longtemps que ce qu'on pense. Donc il ne faut pas abuser non plus de cet outil. C'est un excellent outil, mais il ne faut pas faire des séances tous les 6 mois de skin booster.
Ah bon, tous les combien alors?
Ça va dépendre des peaux, ça va dépendre des localisations, mais ça va être en fonction de l'analyse du praticien.
D'accord.
Mais ça peut être une fois par an, si c'est par des petites doses. Mais
vous dites qu'il ne faut pas abuser parce que c'est quoi le risque en fait?
Eh bien, le risque, c'est qu'il y en ait trop sous la peau. Donc, il faut utiliser toujours, ça c'est vraiment un principe de base, utiliser plusieurs outils qui vont travailler en synergie. Le vieillissement du visage, c'est un processus multifactoriel. Donc, je vais utiliser plusieurs outils qui vont travailler en synergie. Toujours utiliser la dose minimale nécessaire de chaque outil. 1 plus 1 égale 3.
On ne fait jamais que du Botox, que de l'acide hyaluronique. Il faut faire un mix de ces pratiques, c'est ça?
Exactement, c'est la même chose si je veux prendre soin de mon corps. Je vais utiliser plusieurs activités. Je vais faire peut-être un peu de cardio-training, un peu de renforcement musculaire, un peu de pilates. Et toutes ces activités vont se compléter.
Docteur, tout ce qu'on vient de voir, là, tous ces soins, que ce soit l'hydrafacial, le micro-needling, la mésothérapie ou encore les skin boosters, les soins skin boosters, est-ce qu'il y a éventuellement des contre-indications? Et puis finalement, est-ce qu'il y a une tranche d'âge pour laquelle c'est plus conseillé? Est-ce qu'on peut faire quand même ça à 70 ans ou c'est conseillé plutôt pour des femmes plus jeunes? Enfin, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus?
Alors, il n'y a pas de réelle contre-indication, il faut que la peau soit saine, donc pas d'infection, pas de poussée d'herpès, pas de poussée d'acné bien entendu. Et il faut éviter le soleil dans les semaines qui suivent pour les gestes un petit peu plus importants. Et en général, pour les gestes les plus simples, c'est juste pendant 24-48 heures éviter le soleil.
Et avec tous ces soins, docteur Olivier Claude, est-ce que ça permet d'éviter d'avoir affaire à de la chirurgie, à un lifting un jour?
Alors, excellente question. En tant que chirurgien plasticien, je vous répondrai que le lifting reste l'outil le plus puissant pour rajeunir un visage, mais aujourd'hui ce n'est plus une étape obligée comme ça l'était auparavant. Et c'est vrai dans toutes les spécialités médicales, comme en cardiologie, on ne fait plus des pontages coronariens aussi souvent qu'avant, on fait du minimal invasif, on pose des stents. Ben nous, nos stents à nous, ce sont les injections d'acide hyaluronique profonde et les fils tenseurs.
Vous allez peut-être devoir ranger le scalpel, en tout cas concernant le Botox, il y aura sûrement toujours des prothèses mammaires et d'autres interventions, mais concernant le lifting, il est peut-être amené à disparaître avec tous ces outils maintenant que vous avez à votre disposition.
Vous pensez?
Alors peut-être dans de nombreuses années, je pense qu'il y a encore aujourd'hui d'excellentes indications pour le lifting cervico-facial, mais on opère sur des peaux qui sont entretenues grâce à cette synergie des traitements. Donc on a également des suites de lifting beaucoup plus légères, plus simple que ce qui existait auparavant.
Et puis maintenant, vous faites les demi-liftings, vous ne faites plus les liftings entiers, du visage en entier.
Exactement. Le lifting frontal a presque disparu grâce aux injections de Botox, par exemple.
Elle est bien renseignée hein, quand on parle d'esthétique. Hein, quand on parle de Zona, il n'y a plus personne. Hein,
je suis passionnée. Je vous remercie. C'est très clair, en tout cas.
Hein, et à quel âge on commence, pour le coup? Parce que là, on a dit, OK, peut-être qu'on passera quand même par la phase lifting un jour, en tout cas sur une peau qui aura été mieux entretenue tout au long des années. Mais est-ce que, je ne sais pas, ces soins skin booster, hydrafacial, vous conseillez de les commencer, je ne sais pas, à 40 ans, à 35 ans,
25.
À 50 25, c'est peut-être un peu jeune, je ne sais pas.
Vous disiez qu'à partir de 25, ça commence à partir en live.
Exactement. Il faut commencer le plus tôt possible, parce qu'on est dans une approche de plus en plus de prévention. Et c'est la même chose pour la silhouette. On va faire du pilates à partir de 25 ans. Avant, on commençait le pilates autour de 50-60 ans. Maintenant, on s'est rendu compte qu'en faire jeune, ça permet de mieux passer les années. C'est la même chose avec les injections. Il faut prendre en charge tôt sa peau, avec des soins adaptés. On ne va pas faire les mêmes soins à 25, à 35 ou à 45 ans, mais il faut avoir cette prise en charge globale le plus tôt possible, avec des soins à chaque fois adaptée à chacun de nos patients pour avoir des résultats naturels et harmonieux.
Merci docteur Claude, beaucoup hein, pour cet éclairage sur cette nouvelle approche esthétique qui est en train de gagner du terrain, une médecine esthétique qui est finalement bien plus globale et qui offre à chacune et à chacun une prise en charge bien plus personnalisée.
Merci beaucoup docteur. Allez, on va basculer maintenant vers la dernière séquence de l'émission, notre partie tendance. On va écouter d'abord la chronique gourmande de Sophie Menu. Aujourd'hui, elle va nous faire découvrir la poutargue, les œufs de poisson, de mulet, un mets rare qu'elle va nous apprendre à mettre en valeur dans nos assiettes. Et puis ensuite, Cécile Coumeau va nous décrypter un truc assez branché hein, chez les plus de 50 ans, mais pour lequel on peut craquer à n'importe quel âge. Devenir châtelain, acheter un château à plusieurs. Un investissement original qui contribue en plus à la sauvegarde du patrimoine. Et enfin, on va terminer avec les conseils beauté de Benjamin. Benjamin Lévesque, conseil beauté pour les sportifs, ce mercredi sur Europe 1. Alors à tout de suite.
Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
De retour dans Bienfait pour vous, votre magazine bien-être dans lequel on prend soin de vous avec Mélanie Gomez tous les jours jusqu'à 12h30. Alors tout de suite, on va démarrer notre séquence tendance et on va la commencer aujourd'hui avec vous, Sophie Menu, bonjour.
Bonjour, je prends l'accent du Sud.
Ah, pourquoi donc?
Parce que je vais parler de la poutargue.
Je sais pas, il est bizarre.
Ah oui, c'est vrai, j'ai un peu raté, je suis désolée.
C'est trop mignon. Et puis ensuite, Mélanie.
Bon, bah après la poutargue et les cigales de Sophie Menu, je vous donnerai quelques cours parce que moi je l'ai l'accent que je veux. Je viens de Perpignan et c'est un vrai accent.
Bon, c'est vrai.
Ce sera à vous de jouer, Cécile Coumeau derrière. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Avec vous, le moins qu'on puisse dire, c'est que dans votre chronique, on va presque vivre la vie de château. C'est bien ça?
Oui, exactement. Vous allez voir qu'on peut devenir châtelain, n'importe qui, mais attention, hein, pas un châtelain qui se met au coin du feu avec son chien à ses pieds. Non, c'est tout à fait différent.
Ah. Bon, ça m'intéresse ça. Et enfin, on va boucler ce tour de table avec vous, Benjamin Lévesque. Bonjour.
Bonjour les filles.
Vous êtes notre coach beauté. Je dis coach parce qu'on va se faire beau tout en se musclant, si je ne me trompe
oui,
pas.
Oui, vous le voyez, j'ai même sorti la tenue de sport. Je vous croyais en faire des pompes, du gainage, des squats. Mais juste avant, je vais vous prouver qu'on peut aller à la salle de sport en étant maquillée.
On dirait Davina Lévesque aujourd'hui. Merci beaucoup, Benjamin.
Merci, Benjamin. Ce sera à vous dans très peu de temps. Ne bougez pas, mais tout de suite, on va passer en cuisine dans Bienfait pour vous.
Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances.
Sophie Menu, vous allez nous parler maintenant d'un mets peu connu encore, même si on en entend parler de plus en plus ces dernières années, à savoir la poutargue. Alors, moi j'en ai déjà mangé dans des restaurants, mais pour rien vous cacher, j'en ai jamais cuisiné, enfin mis dans les assiettes chez moi en tout cas. Et je suis certaine que vous allez m'aider à remédier à cette situation. On vous écoute, Sophie.
Tout à fait, Mélanie. La poutargue, ou là, elle a deux noms, hein. Poutargue ou boutargue, les deux se disent en France, c'est un produit qui intrigue, venu de la mer. Alors, on l'appelle parfois le caviar de la Méditerranée. Sa saveur puissante et sa rareté donnent forcément envie d'y goûter. Alors, je vous ai apporté une poutargue de haute compétition. Mmh. Déjà, regardez comme c'est beau la boîte.
Magnifique, hein, c'est vrai. Alors,
on dirait une carotte.
Ouais, non, mais non. Non, elle a, le designer a joué
c'est
en fait
classe,
sur une poutargue.
C'est trop beau.
Et c'est une jeune femme qui s'appelle Florence Châtelet qui a décidé de mettre en avant tous les petits producteurs de produits un peu rares.
Faites
comme
ça. Faites-nous
passer
ce coffret qu'on regarde un petit peu.
Je vais vous passer le coffret, puis je vais vous... Alors, elle nous a envoyé deux sortes de poutargues. Mmh. Mais on va déjà commencer à parler de ça. Alors, mesdames, si je vous dis mulet, vous me répondez quoi?
Coupe. C'est vrai. C'est pas un âne. Hein,
moi, je pensais à la coupe mulet.
Oui,
savez,
la coupe mulet.
Un truc entre l'âne et le cheval, c'est
oui,
ça?
Oui, c'est ça aussi. Mais c'est aussi un poisson. Et ce poisson, c'est ce poisson qui m'intéresse pour vous parler de la poutargue. Parce que c'est les œufs de ce poisson très recherché avec lequel on élabore ce produit qui est devenu un produit de luxe, mais qui au départ était un produit très populaire. En arabe, boutarga signifie œufs de poisson salé et séché, c'est-à-dire conservé dans la saumure. C'est encore le cas. Alors en France, comme je vous l'ai dit, on l'appelle boutargue ou poutargue. Mm-hmm. En Italie, on l'appelle botarga. En espagnol, pareil, avec un T en moins. On la trouve principalement, ce poisson se trouve principalement sur le bassin méditerranéen, quelquefois aussi en Atlantique et en Mauritanie.
Alors, parlez-nous de la poutargue que vous nous avez apportée.
Alors, comme je vous le disais, Florence Châtelet, elle a eu envie de faire un produit le plus pur possible, loin des sirènes d'ailleurs du marketing. Et elle a remis en avant ce produit qui est très simple, hein, puisqu'on pêche le poisson. Et elle a fait ce qu'on appelle la slow maturation, c'est-à-dire une maturation très douce, qui combine affinage, fumage et fermentation. Alors, vous allez goûter. Alors,
oui.
Il y en a deux.
D'accord.
Alors, je sais, vous, Julia, vous adorez la poutargue,
j'adore,
je crois.
J'adore ça, les pâtes à la poutargue, c'est délicieux.
Exactement. Alors, celle que vous avez, c'est une poutargue qui a été maturée seulement un mois et elle est encore molle.
Alors,
et
ce sont, je décris un petit peu pour nos auditeurs, ce sont comme des poches, en fait, remplies d'œufs de poisson, des œufs de poisson qui sont de couleur orange. Vous avez peut-être déjà vu ça. Il y a des poissonniers qui en vendent aussi. Hein. Moi, j'en ai chez
Il y a des poissonniers. Je vous fais goûter aussi, Benjamin. Vous faites passer.
Comment ça se fabrique alors ?
Alors, ça, c'est à Martigues, en France en tout cas, hein, qu'on la prépare depuis plus de 5 siècles. On pêche les mulets quand, avant que les femelles rejettent leurs œufs, quand elles sont bien pleines. Une fois pêchées, avec les mains, tout est artisanal. On prélève la poche très délicatement, on la rince, on la pose sur des cristaux de sel qui vont durcir cette pellicule qui entoure les œufs. On va la laisser sécher comme ça un petit peu. Et ensuite, on va la dévener comme un foie gras.
Ah oui ?
Et on laisse sécher encore sur des clayettes pour suspendre ensuite et continuer en fait le séchage.
C'est pas facile à dire, séchage.
Non.
Mais on peut la trouver où, cette poutargue, alors ?
Alors, comme Mélanie disait, on la trouve maintenant plus facilement chez des poissonniers, dans des épiceries fines, dans des épiceries spécialisées sur les produits de la mer, dans les supermarchés, et sur l'épicerie en ligne de Florence qui s'appelle DSA.
DSA,
ouais, D-A-E-H-E-S-A, donc on peut l'acheter en ligne comme ça.
Et pourquoi c'est si cher ? Pourquoi ça, vous disiez le caviar de la mer, pourquoi c'est si cher ?
Mais pourquoi parler d'argent ?
C'est vrai pourquoi
que
pas ?
C'est vrai que c'est cher, parce que d'abord, alors son prix oscille selon les années entre 160 et 220 euros le kilo.
Waouh, c'est cher. Hein.
Donc c'est vrai que c'est cher, mais il faut des gros œufs pour faire de la bonne poutargue, donc difficile à trouver. Les mulets gris qui servent à faire cette poutargue sont de plus en plus rares. On les trouve en Espagne, autour de la mer Méditerranée, l'Atlantique, au Maroc, aux Canaries. Mais ce que je voudrais dire, c'est vrai que c'est cher, mais on l'utilise très peu, en fait.
Bah oui, c'est comme, vous avez comme vu, pour comme le caviar, finalement. Hein, si on utilise une petite tranchette très fine, et ça suffit sur une petite tartine de pain là, avec un peu de beurre, c'est délicieux. Moi, j'ai acheté de la poutargue aux truffes pendant les fêtes. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je ne voudrais pas me disputer avec vous, Mélanie.
Non, mais
je
n'étais pas convaincue non plus en goûtant. Hein. Finalement, je suis débordée par les saveurs un peu artificielles, finalement, en plus.
Bah, l'aromatisation n'a aucun sens dans un produit comme ça, qui est un produit d'une pureté extrême. C'est, en plus, où vous mangez de la truffe, où vous mangez de la poutarde.
Mais pas les deux ensemble.
Pourquoi mélanger les deux ?
Ça coûte un bras. Hein,
exactement.
Je vais vous rassurer, Sophie. J'ai également une poutargue toute fraîche et sans rien, sans aromatiser. Pas du tout aromatisée dans mon frigo. Je vais en faire quoi, alors ?
Alors, vous pouvez, c'est très simple, soit apéro, vous sortez un petit blanc de Provence ou un petit
muscadet. C'est rare qu'on fasse l'apéro chez moi, c'est dommage.
Ça, il faut voir avec votre mari. Et vous les coupez en lamelles très fines et vous faites comme je vous ai proposé là, c'est-à-dire sur du pain, sur du beurre. Un dîner de dernière minute, vous faites cuire des spaghettis al dente. Vous rajoutez un peu d'huile d'olive, ça sent déjà les vacances et l'été. Vous rajoutez quelques lamelles de poutarde.
Moi, je pense que ça va finir comme ça chez
moi. Ou vous la râpez quand elle est sèche, sur des œufs brouillés.
J'ai microplane, ça sera bien là-dessus.
C'est génial. Avec la microplane, c'est génial.
Sur les œufs brouillés.
Sur des œufs brouillés, c'est super bon, peu comme on met de la truffe d'ailleurs sur les œufs brouillés. Bah là, mettez de la poutargue. Et surtout, il ne faut pas la faire cuire, en fait, parce que ce qui est bon, c'est sa naturalité.
Pas, hein, ça ne se cuisine pas, ça se met sur quelque chose.
C'est un produit d'exception tout seul. Donc, vous faites comment à Marseille, Julia, quand vous la
dégustez ? J'y vais ce week-end, vous savez, à Marseille, et c'est les gens qui...
Qui le font pour elle.
Je vais dans un restaurant.
Tout d'un coup, je me disais, Julia, ça y est, c'est mis à la cuisine.
Par contre, il m'arrive d'avoir de la poutargue à la maison. Et effectivement, comme je suis une très mauvaise cuisinière, il suffit de couper la poutargue et mettre des petits bâtonnets, les gens se servent. Vous l'avez déjà fait ça ?
Mais bien sûr.
Vous voyez,
Elle
sait couper des cure-dents. Je sais couper une poutargue. Merci madame. En tout cas, merci beaucoup Sophie Menu pour cet éclairage gastronomique sur cette spécialité iodée, la poutargue qui existe donc depuis plusieurs siècles. On va encore rester ensemble avec d'autres tendances dans un instant. D'abord, c'est Cécile Coumeau qui nous invite à tester la vie de château. Elle va nous expliquer en tout cas cette aspiration que de plus en plus de gens réalisent, acheter un château à plusieurs. Ça vous dirait pas, Mélanie ? On pourrait se lancer dans un... Je sais pas, partager un château.
Si vous faites le ménage, moi je suis d'accord.
Et si moi
je ferai la cuisine.
Je ferai la cuisine, ok, pas de problème. Et puis une fois qu'on est propriétaire d'un château, il est important de paraître à son avantage. Et pour cela, il y aura aussi les conseils beauté de Benjamin Lévesque. Des conseils beauté spécialement pour les sportifs. Je suis sûre que ça va vous intriguer. Alors restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali,
Mélanie Gomez.
C'est bien fait pour vous, nous sommes avec vous jusqu'à midi et demi avec notre trio de chroniqueurs de talent, toujours autour de la table pour notre séquence tendance. Et maintenant, c'est à vous, Cécile Coumeau, de nous révéler votre tendance du jour, devenir châtelain. Pas besoin d'avoir des titres de noblesse, un nom à particules, ni même une fortune. Aujourd'hui, tout le monde peut devenir châtelain, ou plutôt co-châtelain, c'est-à-dire, expliquez-nous, Cécile.
Eh bien, co-châtelain, comme son nom l'indique, ça signifie que le beau château avec le donjon et le pont-levis, vous n'en êtes pas le seul propriétaire, vous êtes copropriétaire. Et ça, c'est désormais possible grâce à des start-up qui se sont spécialisées dans le financement participatif au profit de la préservation du patrimoine. Alors concrètement, ben, des vrais châtelains qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts font appel à l'une de ces start-up, soit pour trouver des actionnaires qui vont aider à financer les travaux, soit pour revendre complètement leurs biens. La start-up lance donc une campagne de financement pour recruter les co-châtelains.
Ah, c'est drôle ça, et le but c'est que tous nos beaux châteaux ne tombent pas en ruine, c'est ça?
Oui exactement, comme en France il y a à peu près 45 000 châteaux, un peu plus que de fromage hein, quand
incroyable.
Même. vous imaginez bien que l'État, il n'a pas les moyens de tous les rénover, donc le château de la Motte-Chandonnier par exemple, vous ne connaissez pas?
Non du tout.
Moi non plus. Et cet édifice du 19e siècle qui est situé dans la Vienne, il méritait vraiment d'être sauvé, comme nous l'explique Romain Delhomme, le cofondateur de la start-up D'Artagnan.
C'est un château de conte de fées, on a l'impression qu'il a été dessiné par Walt Disney il y a une centaine d'années. En fait, c'est un château dans lequel il y a eu un incendie en 1932 et depuis qui a été complètement laissé à l'abandon avec une nature qui a repris ses droits à l'intérieur. Et lorsqu'on ouvre les portes du château, en fait, il y a toute une nature, une végétation qui a poussé de manière complètement harmonieuse avec le château. Et en fait, il y a ce spectacle féerique qu'on ne voit nulle part ailleurs avec l'architecture et la nature qui s'entremêlent et qui grandissent finalement dans une grande bienveillance quand on ouvre les portes du château. Et qu'on voit des arbres qui culminent à une quinzaine de mètres de haut et qu'on voit qu'aucun de ceux-là ne sont dangereux pour la structure du monument, on se dit waouh.
Eh ben, les propriétaires de la Motte-Chandonnier sont plus de 20 000 aujourd'hui et de 115 nationalités différentes.
Mais Cécile, il faut investir combien pour avoir le titre de ronflant co-châtelain?
Alors c'est variable évidemment, mais chez D'Artagnan, le billet d'entrée, si je puis dire, est de 59 euros.
Ça
vous
voyez, va, c'est
normal,
tout le monde va acheter.
On achète
tout le monde.
Et vous allez voir, c'est un vrai investissement.
C'est comme acheter une action en bourse au CAC 40, comme investir dans une start-up. Vous avez un numéro de souscripteur, vous êtes identifié comme tel, vous pouvez avoir une action, vous pouvez avoir plusieurs actions. Et puis, évidemment, si les projets avancent bien, il est tout à fait possible que dans les années, l'action prenne un petit peu de valeur. Voilà, on peut aussi transmettre cette action à ses enfants, à ses petits-enfants. Et voilà, et de se dire que, alors même si on est des milliers et des milliers, le fait d'être actionnaire, on a un petit bout du château qui nous appartient.
Moi, je veux juste une petite tour, là, un peu comme une princesse.
Petite tour, ça fait déjà pas mal.
Ah oui,
pas
c'est
mal
d'actions. Bon, le toit de la tour, alors.
Mais juste... bon, et donc, comme tout actionnaire, vous avez le droit, donc si vous avez ces actions, de donner votre avis sur les projets de rénovation. Mais là où c'est encore mieux qu'une action, je dirais, c'est que vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice, sans mauvais jeu de mots, en participant bénévolement au chantier de rénovation.
Non, mais moi, je veux bien, mais rénover un monument historique, ça demande quand même quelques compétences, non?
Oui, c'est vrai. Je suis d'accord, il faut des charpentiers, des ferronniers, des maçons, enfin tout ça.
C'est
quoi.
Tout à fait vous, Julia.
Ah, bah, mais pas que. Si vous savez cuisiner, vous pouvez.
Non,
mais si vous savez débroussailler le parc d'un château, c'est pas très compliqué, c'est à la portée de tout le monde. Hein, donc vous pouvez y aller.
En épilation, mais pas en débroussaillage.
Je peux épiler les gens qui vont dans le potager.
Et Sophie, vous?
Non, je voulais savoir, on a le droit d'en profiter de ce château? On a le droit d'y aller, passer un petit week-end?
Oui, on a le droit, effectivement.
Ça arrive.
Alors, on va vous expliquer ça. Je veux juste vous dire que voilà, c'est simple. En tout cas, vous n'avez pas besoin d'être un bricoleur de génie pour y aller. Écoutez, François Haussin, qui est co-châtelain, il anime le réseau de bénévoles. Il se souvient encore d'un couple qui est venu donner un tout petit coup de main.
Le monsieur, il avait une canne, il avait un peu de mal à marcher. Et ce jour-là, on avait à broyer beaucoup de végétation qu'on avait mis en tas, hein, suite à l'ensemble du débroussaillage qu'on avait fait au préalable. Et ce couple, il se tenait par la main et le monsieur, il tirait une branche. Et voilà, il a fait ça dans son après-midi et j'ai trouvé ça formidable. Et moi, ce que je retiens d'abord de cette histoire, c'est cette aventure humaine qui est formidable. Des gens qui viennent pour apprendre, il y en a qui savent, il y en a qui ne savent pas, on prend les gens comme ils sont.
Donc, alors, pour répondre à votre question, est-ce qu'on peut dormir au château? Alors, vu le nombre de copropriétaires, si vous arrivez tous, même avec votre tente dans le parc du château, ça va être compliqué quand même. Mais
dommage.
Bon, ça va être possible à la Motte-Chandonnier. Par exemple, ce fameux château, il va y avoir construit des espaces réservés aux co-châtelains. Ça va être créé en 2024. Et puis, de toute façon, alors, je vous le dis tout de suite, jouer au seigneur des lieux, c'est pas tellement ce qui motive finalement ces co-châtelains. Participer à la préservation de notre patrimoine. Les Français, ils sont fans de ça. Et après, c'est l'aventure humaine. François Haussin nous raconte son plus beau souvenir.
On a attaqué une zone en débroussaillage. Donc, il y avait des herbes hautes, il y avait des arbres. Et il y avait... enfin, c'était extrêmement dense au niveau végétation. Et en débroussaillant, on a découvert un pavillon de chasse qui était complètement caché derrière la végétation. Et ça a été incroyable, parce que en fait, on avait l'impression de découvrir un trésor.
Bon, alors je vois que vous êtes tous passionnés. Hein, si l'aventure vous tente, vous pouvez devenir copropriétaire du château de Boulogne. C'est un édifice qui est à une heure de Paris, hanté par les fantômes de la Première Guerre mondiale. La campagne de financement est ouverte sur le site de D'Artagnan.
Ouais, c'est super, merci beaucoup Cécile Comeau pour toutes ces infos et tout ça. C'est franchement très tentant. Qui n'a pas rêvé d'avoir un jour un château, un donjon, des écuries, des oubliettes, 58 chambres. Bon, je m'arrête là car sinon je vais me transformer en princesse. Cela dit, avec vos conseils, Benjamin Lévesque, tout est possible.
Elle est troublée.
Ah, je suis troublée. J'ai envie d'habiter un château.
On va sortir le short, hein, je crois, les haltères, les baskets. Benjamin, on va faire du sport, c'est ça?
Eh oui, effectivement, puisqu'il y a de plus en plus de marques de cosmétiques qui mettent au point des produits de beauté spécialement conçus pour les sportifs et les sportives. Alors pour le maquillage par exemple, vous avez la marque MAC qui a longtemps maquillé les artistes du Cirque du Soleil, qui ont développé plusieurs produits que l'on peut appliquer avant l'entraînement. Alors vous avez bien sûr les rouges à lèvres longue tenue, mais vous avez encore mieux avec, regardez, cette laque à lèvres. Alors c'est une sorte de rouge à lèvres liquide et qui va en fait sécher et qui va tenir beaucoup plus longtemps, jusqu'à 12 heures.
C'est du plâtre pour la bouche.
Non, j'en ai déjà porté, c'est
ça,
très efficace. Ouais, ouais,
ça va résister à la chaleur, ça va résister à la transpiration. On peut même manger avec, ça ne part pas. Ouais. Seul bémol à l'effrottement, si on s'essuie la bouche avec une serviette dessus, bien forcément on va abîmer le rouge à lèvres.
Bon, Benjamin, moi vous savez, j'adore la piscine, hein, c'est ma passion la piscine. On peut quand même se maquiller pour aller dans l'eau.
Et oui, effectivement, les mannequins que vous êtes, les filles, vont pouvoir aller nager avec des yeux de biche grâce à ce mascara totalement waterproof. Il coûte 22 euros et qui va résister à l'eau de la piscine, comme l'explique Tom Sapin, qui est maquilleur professionnel pour MAC Cosmétiques.
C'est un mascara qui est aqua-résistant mais qui dépend de la température de l'eau. Par exemple, on va aller dans une piscine d'eau froide, le mascara ne va pas couler. Donc par exemple, moi je l'utilise aussi sur mes mariés qui vont pleurer le jour de leur mariage parce que je sais qu'à l'eau froide, donc l'eau des larmes, etc., il ne coulera pas. En revanche, c'est un mascara qui, après cette séance de piscine ou ce mariage par exemple, va s'éliminer à partir d'une certaine température de l'eau. Donc par exemple, si on prend une douche chaude, là le mascara va s'éliminer complètement. C'est pour ça qu'il est adoré par les sportifs.
Et vous avez même l'ombre à paupières, c'est un fard à paupières liquide et puis un fond de teint qui résiste à l'eau. Et donc en fait, la transpiration va perler à travers le maquillage et ne l'emportera pas avec.
Ça coûte combien? Parce que si c'est aussi technique, moi j'ai l'impression que ça va être très
très
cher.
Alors le fard à paupières, il est à 24 euros et le fond de teint, 39 euros.
Donc c'est correct. Il y a aussi d'autres cosmétiques, des soins à appliquer sur la peau pour faire de meilleures séances de sport. Qu'est-ce qu'on peut mettre justement avant l'entraînement?
Et oui, c'est bien connu, les filles, avant de faire du sport, qu'est-ce qu'on fait?
On se maquille.
Non,
on s'échauffe.
On s'échauffe. Donc pour bien préparer son corps avant le sport, il y a des marques comme M+, qui a vu le jour l'an dernier et qui fabrique des produits pour les sportifs exclusivement. Alors ce sont des petits emballages étanches, donc pratiques à glisser dans le sac de sport. Et vous avez par exemple ce baume chauffant. En fait, il suffit donc de l'appliquer sur le muscle que l'on va utiliser. Donc si je décide de faire les haltères, je vais l'appliquer.
Il est en train de s'appliquer sur le biceps.
Le bras. Ouais. Si vous faites un footing, Sophie, vous le mettez sur
vos jambes. Ça sent comment, Sophie? Me dites pas que ça sent la poutarde.
Quand
même. Ça sent bon.
Je vous
ai pas senti.
Ça sent un peu les produits arnica,
un peu camphré.
Il suffit de bien masser, de malaxer. Et donc ça va en fait chauffer le muscle. Il y a même du gingembre dedans, ce qui fait que ça va tonifier.
Ça va nous exciter un peu.
Quoi. Voilà, exactement. Alors je sais pas ici qui fait de la course à pied ou fait son sport.
Cécile Couvreur, je sais. Cécile. Et Sophie Menu.
Cécile et Sophie. Alors avec le froid, j'imagine que c'est un enfer en ce moment pour courir. Alors pour éviter de se geler les. Et ben vous avez la marque Aquiléine qui a sorti une gamme de produits chauffants. Donc là, vous avez pour les mains, les pieds, le visage. Et en fait, ils sont à base d'huile essentielle de piment. Donc ça va agir sur...
Ça va chauffer dans les chaussettes. Dans la
vie, voilà. Ça va courir beaucoup plus.
Exactement. Ça va agir sur les thermorécepteurs de la peau. Donc si vous frottez bien ce gel sur la peau, et ben ça fait comme si vous mettiez du piment sur la langue.
C'est drôle.
Ça va pas piquer, mais ça va chauffer.
Et après le sport, qu'est-ce qu'on peut mettre? Je crois que vous avez apporté une huile pour le corps.
Oui, c'est une huile du tigre de la marque La Canopée, qui est inspirée du baume du tigre. Alors il y a dedans trois ingrédients très intéressants après le sport. Vous avez le camphre, donc les propriétés qui soulageraient les articulations. Vous avez du menthol.
Attention l'ouvrant, Sophie, ça va vous sauter la figure.
Du menthol qui va apporter une grande fraîcheur et qui aide à la circulation sanguine. Et puis de l'huile essentielle d'eucalyptus qui va apaiser le muscle. Et donc on va l'utiliser, cette huile, en massage après le sport. Et le fait de masser un muscle après une séance de sport, et bien ça porte un effet bien-être, comme l'explique explique le kinésithérapeute Nicolas Tikhomirov, alias Monsieur Clavicule, sur les réseaux sociaux. Ah.
Quand on masse, on va augmenter le flux sanguin, la circulation sanguine cutanée. Et ensuite, on a un effet qui est aussi neurologique au niveau des réflexes en diminuant l'excitabilité neuromusculaire dans le muscle. Ça a pour conséquence de diminuer les douleurs musculaires. Quand on a fait du sport, on a souvent mal, on a des tensions. Donc, il ne faut pas se priver de quelque chose qui pourrait nous faire du bien.
Bon, mais là, on est bien plein de cosmétiques, bien massés. Hein. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller faire du sport quand
c'est
même.
Hein. C'est
ça. Merci beaucoup, Benjamin, pour ces conseils toujours aussi concrets pour prendre soin de nous. C'est de la beauté vraiment pratique avec vous et c'est ce qu'on aime dans cette émission. Des conseils à appliquer au quotidien. Merci à tous les trois. On vous retrouve très bientôt dans Bienfait pour vous. Voilà, cette émission est terminée. On sera évidemment de retour demain, dès 11h. Julia, demain, qu'avons-nous au programme?
Alors, Mélanie, on va parler une fois de plus d'amour et surtout, on va analyser ensemble 5 croyances sur les relations de couple du type « Avec moi, il va changer » ou encore « Les opposés s'attirent ». Bref, on va déjà décoder ces croyances qui peuvent nous empêcher parfois de trouver le bonheur à deux et on va les remettre en question. Ce sera un petit coup de main pour tous ceux qui cherchent encore l'amour, le vrai justement.
D'ici là, en tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos témoignages aussi si vous le souhaitez sur notre compte Instagram ou sur le répondeur de l'émission au 3921. À suivre, c'est Romain Desarbres avec Europe Midi.